Esprit, de lui donner l'assurance de la partager avec nous et de nous donner, Seigneur, des oreilles qui entendent, mais des cœurs qui reçoivent et gardent ta parole pour l'accomplir au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup. Merci Paul. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, bienvenue à chacun. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur de vous partager la parole ce matin et de vous apporter le message. C'est beau de voir comme l'Esprit-Saint il prépare les cœurs, comme il fait le travail. Quand vous allez voir le message, vous allez comprendre par rapport à toutes les paroles qui ont été données, combien déjà la terre a été préparée, élaborée. Alors ce matin, on arrive presque à la fin de l'Épître aux Éphésiens. Et on va voir ensemble comment l'apôtre Paul récapitule déjà des vérités qu'il a abordées dans les 5 premiers chapitres, mais cette fois-ci en leur donnant une perspective un peu différente. La perspective du combat, c'est ce qu'on va voir. Mais donc, si vous avez bien suivi, après Éphésiens 1, 2, Éphésiens 3, Éphésiens 4, Éphésiens 5, ce matin, c'est Éphésiens... Bravo, ça va, vous me rassurez. Alors, c'est ce qu'on va lire tout de suite. Voilà. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps et par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je crois à l'humour de Dieu. Je crois que Dieu, parfois, il fait des clins d'œil. Et là, ce matin, me voilà par une divine providence amené à vous partager sur le combat spirituel. Sachant que mon prénom, c'est Vincent, et que Vincent, ça vient du latin vincere, qui se traduit par « qui a vaincu ». Alors, je vous laisse deviner qui de moi ou de la parole a vaincu ce matin. Et heureusement. Je me souviens de la première fois que j'ai médité ce message, ben, c'était à des ados de 10 à 13 ans. Et pour illustrer ce passage qui s'illustre assez bien, j'avais amené des accessoires. Et je me souviens, on avait déguisé Jérémy Morin. Voilà, c'est ça date. Hein. Et je me souviens du ton et de l'ambiance un peu légère, hein. c'était bon enfant. Mais avec le recul, je trouve qu'à l'époque, peut-être j'avais pas pris la pleine mesure des enjeux. Parce que la réalité, c'est que ce combat, il est rude. Et les enjeux, ils sont majeurs. Donc voilà, en résumé, ce que l'apôtre nous dit dans ce texte qu'on vient de lire. Attention, les temps sont durs. Il y a un combat spirituel qui est réel. Alors, fortifions-nous. Tenons ferme. Contre les ruses du diable. En nous revêtant de l'armure de Dieu. Pour que l'évangile soit annoncé. Et c'est important de garder en tête le contexte dans lequel ce combat il se déroule. Parce que ça serait bien légitime pour nous de se poser la question. Là, on va rentrer dans la période de Noël, de la nativité, de la bonne période, de la bonne nouvelle de la venue de notre Sauveur. Alors c'est légitime de se poser la question, pourquoi le combat? Pourquoi alors que le Seigneur a été déclaré vainqueur sur la mort après sa résurrection, pourquoi serions-nous encore en guerre? La réalité, Et notre réalité, c'est que nous vivons dans ce temps qui se situe entre le tout est accompli de notre Seigneur à la croix, il y a 2000 ans, et le temps de la parousie, le temps où le Seigneur reviendra. Nous sommes en tension entre le déjà là de la croix et le pas encore du jour où nous le verrons tel qu'il est, tous. Pour reprendre une célèbre citation d'Oscar Kuhlmann, qui est reprise dans le commentaire de l'Épître aux Hébreux de Dominique Anger, si vous voulez, cette période, on peut la comprendre par analogie avec un temps de la Seconde Guerre mondiale. Ça serait le temps, en fait, entre le jour du débarquement, réussi par les Alliés, et le jour de la victoire, quelques mois plus tard, en mai 45, la victoire finale. Une fois le débarquement réussi, la victoire, elle était déjà certaine. Mais c'est que plusieurs mois plus tard, et après des combats difficiles, que vraiment la victoire a été déclarée. L'apôtre Paul, il est lui-même en tension dans cette période d'entre-deux, dans sa maison d'arrêt, puisqu'il nous dit qu'il est dans les chaînes lorsqu'il écrit cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Et c'est dans ce contexte de tension que Paul insiste. Il insiste à ce que nous tenions ferme. Voilà, tenir ferme. Ici, le mot tenir ferme, il est employé presque trois fois d'affilée par Paul. Dans le texte grec, c'est le mot isthémie, que l'on peut traduire par se tenir prêt, ou être constant d'esprit, ou encore être rempli. Ce mot en grec, isthémie, il est présent 153 fois dans le Nouveau Testament. À mon avis, si la parole insiste comme ça, c'est qu'il y a une raison. Tenez donc ferme. Par exemple, tenir ferme, nous avec Amélie, quand on commence à s'affairer pour préparer le repas dans la cuisine, il se trouve que parfois, on va malencontreusement ouvrir le mauvais placard devant Salomé. Vous savez, le mauvais placard, c'est celui où il y a la boîte où il y a marqué Haribo dessus. Si on ouvre ce placard et qu'elle le voit, eh bien, on sait qu'on va rentrer dans un moment difficile de tension. Parce que bien sûr, ça ne sera pas le moment pour elle de les manger. Donc, on va dire non et on va avoir droit à une petite crise des familles. Mais Paul insiste, voilà. Tenez donc ferme, tenez-vous prêt. Soyez constant d'esprit. Dans ce texte de forte tension, dans ce contexte de forte tension qui est le nôtre, ce passage, finalement, il nous interroge. Il nous interroge chacun, chacune, sur notre préparation au combat. Est-ce que ce matin, on a pleinement conscience de ce qui se joue ? Est-ce que nous avons conscience des risques ? Est-ce que nous avons une bonne connaissance de l'ennemi ? Et ouais, ce matin, c'est l'occasion de faire un point sur notre préparation. Et une première étape, à mon avis, qui est sage, c'est de savoir contre qui on se bat et comment l'ennemi cherche à nous atteindre. Quels sont ses objectifs ? Quelle stratégie il utilise ? Une petite situation qui nous vient du milieu militaire. Bon, c'est pas biblique, hein, mais à mon avis, c'est une question de bon sens. Cette citation, elle dit « Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites. » Alors, une petite anecdote. Je dois vous avouer que pendant des années, surtout jeune converti, en fait, je faisais partie des personnes qui restaient imperméables à certains mots. Les mots « diable »,« malin », »,« satan », »,« maléfique ». Franchement, je ne me sentais pas vraiment concerné. Moi, je me sentais sauvé, je sentais l'amour du Seigneur, alors je ne me prenais pas la tête. À l'inverse, j'ai dans mes amis chrétiens de ceux qui ont une sensibilité différente. Par exemple, on se baladait avec nos familles, avec des amis qui nous sont chers, au jardin de la Fontaine. Et là, on passe devant le temple de Diane. Vous savez, je pense que tout le monde connaît. Et là, mon ami me dit, mais tu te sens pas trop mal là ? Ben, je dis non. Tu sens pas l'oppression, tu sens pas ce qui se dégage de malsain de ce lieu ? Alors honnêtement, la seule chose que je sentais à ce moment-là, c'était l'odeur des crêpes au Nutella du restaurant de la table de Diane qui est juste derrière. Avec tout le respect, simplement pour illustrer qu'on a des sensibilités différentes au mal. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, Mais moi, ce n'est pas les lieux comme ça dont je suis méfiant, c'est plutôt certains films ou certaines séries. Des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a un message derrière. Et même dans les derniers Disney, voilà, ma femme n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que à la maison, je passe pour un illuminé. Mais des fois, j'ai l'impression que sur les derniers Disney, il y a des spiritualités un peu New Age qui passent voilà, en toile de fond. Et moi, des fois, ça me met mal à l'aise. Et bref, c'est difficile pour nous d'avoir le bon discernement. Franchement, il faut être honnête. Entre se tenir très loin de la réalité du combat spirituel, d'un côté, et puis peut-être s'en préoccuper de façon excessive, en voyant le mal partout. Mais voilà ce que nous dit la parole. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. J'ai la gorge qui me gratte. Je pense que c'est le message de la semaine dernière. Vous savez, Marie, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous à mon mari. Là, ça vous revient. C'est-à-dire que nous ne luttons pas contre un ennemi qui serait humain, mais nous luttons contre le diable et toute son armée, dont Paul a déjà parlé en Éphésiens 1, 21 et 3, 10. Vous savez, dans le contexte d'Éphèse, dans ce contexte-là, l'apôtre Paul il s'adresse à des chrétiens qui ont rejeté une partie de leur culture qui était sur l'occulte. Vous savez, sur la magie. Les chrétiens d'Éphèse, ils ont rejeté ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on peut se sentir loin de ce contexte de l'occulte. Et ben, malheureusement, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Au travers moi, de mes rencontres au cabinet, parce que je rencontre beaucoup de monde, je discute avec beaucoup de patients et très librement, et ben, je peux vous dire que la voyance, les cartes, les coupeurs de feu, ceux qui rentrent en communication avec les morts et qui me disent qu'ils sont chrétiens en même temps. Moi qui me disais que Saül, c'était il y a vraiment très longtemps, et pourtant il y a des Saül partout. Vous savez, Saül, c'est un des rois d'Israël déchu qui a eu la très mauvaise idée de s'adresser à une voyante pour qu'elle rentre en communication avec le prophète Samuel. Ouais. En fait, l'occulte, il est partout. Nous, on l'a vécu avec Amélie, notre petite Salomé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, décidément, elle s'est brûlée il y a 2 ans, elle s'est ébouillantée. Et donc, elle a eu des soins infirmiers à la maison. Et il y a une des infirmières, quand elle est venue, elle nous a dit, ah, c'est super, merci. Merci beaucoup, Annick. Il y a une des infirmières, quand elle est venue, tout de suite, elle m'a dit, bah, si tu veux, moi, j'arrête le feu. Je peux lui soulager la douleur de la brûlure. Ben, moi, j'ai dit non. Je lui ai dit, non, écoute, ça va aller. Nous, tu sais, on est chrétiens, on prie. Et franchement, je pense, j'ai peut-être été une des seules personnes à lui dire non. Qui dit non quand on propose de soulager les douleurs de son enfant? Qui dit non? Et donc, on a dit non. Et pour la petite histoire, il n'y a pas longtemps, je reparlais avec un de ses collègues, qui est infirmier aussi, et il me dit, ah oui, et elle lui a arrêté le feu. Je lui ai dit, non, moi, elle ne l'a pas fait, je ne lui ai pas dit. Je lui ai dit de ne pas le faire. On était opposés à ça. Et il m'a dit, ben, je crois qu'elle l'a fait quand même. Vous voyez, ça, le diable est très rusé. Et c'est pour ça que la parole nous recommande de tenir ferme. Et certaines versions, comme la Darby, nous disent de résister face aux embûches du diable. Les ruses, les embûches. Je ne sais pas si certains ont lu Tactique du diable de C.S. Lewis. Ouais. S'il y avait Fred Perrier ce matin, il hocherait la tête. Il adore C.S. Lewis aussi. Tactique du diable, c'est un petit bouquin que C.S. Lewis il a écrit, qui est vraiment excellent. Alors ça fait un peu bizarre comme ça, Tactique du diable, ça fait un peu... Ouais. En fait, c'est une fiction dans laquelle C.S. Lewis, vous savez, c'est celui qui a écrit Le Monde de Narnia, tout ça. C'était un chrétien convaincu. Il a imaginé un dialogue dans ce livre entre un apprenti démon et un démon vétéran. D'accord ? L'apprenti démon... Donc on a les lettres du démon vétéran qui donne des conseils à son apprenti. Et son apprenti, il veut monter dans la hiérarchie démoniaque. Et pour ça, il doit corrompre un jeune converti. Voilà, c'est son protégé, comme il l'appelle. Et bref, dès le début de ce livre, un des premiers conseils que le démon vétéran il donne à son apprenti, à son, Voilà, c'est n'essaie pas de le soumettre à une grosse tentation, mais amène-le plutôt vers de petites tentations. Tu verras, ça sera beaucoup plus efficace pour faire tomber ton protégé. Je pense qu'on voit où C.S. Lewis y veut venir. Le risque pour nous de petites désobéissances, de tout petits péchés minuscules, ben c'est l'engrenage. Parce que petit à petit, sans s'en rendre compte, on va se compromettre. Et en même temps, on va se décourager. Et si on se décourage, petit à petit, on va se détacher de la parole. Et quand on s'éloigne de la parole, eh bien, on se sent moins légitime. Moins légitime pourquoi ? Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est l'enjeu, justement, du combat. Le diable, il est très fort pour nous faire croire que tout est réversible, que l'on pourra toujours revenir en arrière, que ce n'est pas grave si on succombe à de petites tentations. Vous savez, comme si de petits actes, avec des petites conséquences, ben, ça ne fera rien du tout. Et c'est bel et bien une tactique du diable que d'avoir fait croire à Adam, allez Adam, allez Ève, c'est juste une toute petite pomme de rien du tout. D'ailleurs, la chute, c'est un exemple flagrant d'une autre tactique que le diable utilise depuis le tout début. Et comme ça marche, eh ben, il ne se prive pas. Il recommence. Est-ce que vous savez ce que c'est cette ruse ? Peut-être je l'ai entendu. Une de ses ruses favorites, c'est cette question. Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? Abraham et Sarah ont dû se demander si Dieu avait vraiment dit qu'ils auraient un fils. Dieu a-t-il vraiment dit d'aller à Ninive, de reconstruire le temple, qu'il était le fils de Dieu ? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il reviendrait chercher son église ? Et ce Dieu a-t-il vraiment dit, il a fait beaucoup de dégâts, parce qu'en premier, il s'attaque aux promesses de Dieu. Malheureusement, cette ruse, elle a fait des dégâts aussi dans l'église. Comme l'expose si bien Paul Wells, c'est un des enseignants à la faculté théologique de Jean Calvin, à Aix-en-Provence. Il a écrit un livre qui s'appelle « Dieu a parlé », c'est un magnifique livre sur la révélation. Et il explique bien que, ben voilà, il y a des théologiens qui en sont arrivés à se demander si la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu. Ça, c'est grave, ça fait mal. Et enfin, une troisième ruse qui nous touche tous. Et la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par un petit partage de Jean-Louis Poujol. Jean-Louis, il en parlait comme de la pire tentation. Est-ce que vous avez une idée de la pire tentation ? La pire tentation, c'est la tentation du moi. Et ouais, on baigne tous dans notre société où il y a un individualisme radical. Le moi, il est érigé en valeur suprême. C'est la priorité légitime. Le moi justifie tout. Le moi excuse tout. Le moi passe toujours en premier. Et j'ai même envie de dire, le moi ne passera jamais, pour faire une petite blague avec 1 Corinthiens 13. Moi, je. Dans nos sociétés occidentales actuelles, eh ben, l'ennemi se régale. Vous comprenez que si notre moi grossit, ben, le Seigneur, petit à petit, sa place, elle diminue. Et voilà donc à travers 3 exemples qui, malheureusement, je tiens à le dire, ne sont pas exhaustifs. Ce ne sont pas les seules tactiques. On ne sait pas tout. Comment le malin, avec son armée, vient essayer de nous corrompre. En fait, juste ce que je veux qu'on comprenne, c'est que Satan, il essaie de faire un vrai travail de sape. Dieu a-t-il vraiment dit ? C'est une attaque de notre assurance du salut et de la véracité de l'Évangile. Pense à toi d'abord et ne te soucie pas des petites tentations. C'est une attaque de notre zèle et de notre sanctification. Parce qu'il faut bien se rendre compte, et c'est là l'enjeu, que le but ultime de Satan, c'est de rendre la vérité captive. Et l'enjeu, ben, ce matin, dans tout ce que nous dit Paul, c'est notre témoignage. Et ces attaques, ben, elles ne se limitent pas au monde matériel, à un endroit particulier ou à des médias ou des personnes particulières. Ces attaques, elles cherchent à nous immobiliser, à nous faire taire et à rendre notre témoignage stérile. C'est là l'enjeu du combat, c'est notre témoignage. Bon, j'ai peut-être un peu refroidi l'ambiance ce matin. On réalise que l'ennemi, il est malin, et je ne crois pas que me tromper, ben, quand je m'avance en disant qu'on s'est tous au moins une fois pris les pieds dans les embûches, pris les pieds dans le tapis. Et de tout temps, rassurons-nous, les chrétiens ont eu à lutter contre ces ruses. les apôtres, les rois d'Israël, les prophètes, les chrétiens des premiers siècles, les chrétiens des derniers siècles. Excusez-moi l'expression, ils y sont tous passés. Mais si la parole est venue jusqu'à nous ce matin, c'est qu'ils ont réussi, malgré les embûches, à avancer, à annoncer, à témoigner. Et aujourd'hui, c'est notre tour. C'est à notre tour de tenir ferme et de résister. Et l'apôtre Paul nous donne ici aussi une bonne nouvelle. C'est que même si l'ennemi est sans doute plus redoutable qu'on l'aurait imaginé, eh bien nous avons accès à une force beaucoup plus puissante que nous le pensons. On a accès à une armure spéciale, l'armure de Dieu, rien que ça. On l'a lu tout à l'heure, prenez toutes les armes de Dieu, l'armure. En grec, dans le texte, panoplia, littéralement une véritable panoplie. Alors si vous vous souvenez, attends Sylvie, ouais, Sylvie m'a, ça y est, t'as spoilé, t'as tout spoilé. On a eu l'exemple de Panoramix, comme un mauvais exemple d'un mystère destiné à rester caché. On a eu Luke Skywalker il y a 15 jours, comme un exemple imparfait d'un enfant de lumière. Et donc ce matin, c'est naturellement, en méditant le mot panoplios, qu'on pense à Batman. Et vous savez pourquoi ? Parce que Batman, pour ceux qui aiment bien les comics, c'est le seul super-héros qui n'a pas de pouvoir lui-même. C'est juste un humain. Lui, il n'a que des pépettes et des gadgets. Il a la ceinture, le casque, le plastron, les bottes, les petits trucs qu'il envoie. Il a une Batmobile. Mais pour nous, la panoplie de Dieu, elle n'est pas faite pour que nous fassions les super-héros. Ce n'est pas pour que nous engagions tout seuls contre le mal, nous-mêmes. Ce n'est pas pour que nous chassions les démons ou que nous délivrions les personnes. La panoplie de Dieu, elle a une autre vocation, c'est nous revêtir de l'Évangile. J'aurais pu commencer par là, mais ça aurait été passé à côté de tous les enjeux. L'apôtre Paul, il commence et dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissante. » Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. En clair, cela veut dire que revêtir l'armure de Dieu, c'est en fait revêtir Christ. Revêtir l'armure de Dieu, c'est revêtir Christ. L'armure céleste, c'est lui. Galates 3, 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. » Et là, maintenant, l'apôtre Paul, il va décrire dans le texte toute cette véritable panoplie du ciel. Il va reprendre les mots du prophète Ésaïe qui dit de l'Éternel en Ésaïe 59, 17, « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, il s'est mis sur la tête le casque du salut. » Alors, un casque, vous en conviendrez avec moi, ça protège la tête, et dans la tête, il y a tous les centres nerveux, d'accord ? Vous avez tout ce qui est nécessaire à la motricité volontaire, à la sensibilité, c'est le centre des émotions, vous avez tout. Un coup à la tête et c'est tout le corps qui flanche. Vous savez, au rugby, quand il y a un gros coup à la tête, tac, ils arrêtent tout, protocole commotion. Pour nous, un coup porté à notre assurance du salut, et ça peut être la commotion spirituelle. C'est-à-dire que si nous ne sommes plus assurés de notre salut, alors notre témoignage, c'en est fini. Et là, pour le coup, on sera immobile. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur lui-même nous protège des commotions spirituelles parce que c'est lui le garant de l'assurance de notre salut. Romains 8 nous dit, et on peut se protéger la tête avec Romains 8, 12, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Simple, efficace. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que c'est lui, c'est le Seigneur qui nous qualifie pour témoigner. Ensuite, la parole nous dit la cuirasse de la justice. Une cuirasse, ça protège les organes vitaux, d'accord ? Et le cœur, qui en fait partie. Et nous savons dans la parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, de l'état de notre cœur va dépendre notre témoignage. On a vu dans Éphésiens 4 et 5, avec les messages de Fred et de Titou, aussi de David, que lorsque nous marchons en odeur de sainteté, eh ben on va stopper le mal, on va stopper les circuits de la corruption. Nous avons la ceinture de la vérité, bien serrée autour de nos reins. Ce sont sa parole, ses promesses, et plus nous rentrons dans ses promesses, plus on les expérimente, jour après jour, eh bien, plus on va s'éloigner du « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Un autre élément de notre panoplie royale, c'est l'épée de l'Esprit, qui est aussi la parole de Dieu. Hébreux 4, 12, cette parole est une épée à deux tranchants qui juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu en tant qu'épée de l'Esprit, elle nous permet de démasquer les stratégies diaboliques du malin. Par exemple, de tout temps, il y a eu de faux prophètes, de faux évangiles. Et ils ont pu être démasqués. Parce que la parole, elle a deux caractéristiques. Elle a une autorité et une véracité. Ces deux caractéristiques, elles permettent de démasquer. Parce qu'imaginons que demain, quelqu'un arrive en proclamant un évangile qui est tiré de son imagination ou de ses fantasmes, eh bien, il suffira de le confronter à la parole écrite. Parce que la parole, elle est cohérente avec elle-même. On parle d'analogie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proclamer une vérité biblique qui n'est pas analogue avec ce qu'il y a dans le reste. Et c'est en cela que son autorité et sa véracité nous protègent. Et puis nous avons des chaussures qui nous donnent du zèle. Alors tenir ferme, oui, être rempli, être constant d'esprit, oui. Se tenir prêt, oui, mais ce n'est pas rester immobile. Si je prends l'exemple du Seigneur, le Seigneur, c'est à la fois le messager et le message. Il est le messager et le message. Et nous qui écoutons le message, nous sommes à notre tour des messagers. L'évangile du Seigneur nous met en marche. Et c'est lui qui nous pousse à témoigner. Et enfin, pour terminer ce listing de la panoplie céleste que j'évite de trop développer ce matin, mais je pense qu'à chaque fois on comprend les clés, c'est le bouclier de la foi. Pour éteindre les traits enflammés du malin, et par traits enflammés du malin, ben on peut comprendre des flèches enflammées, et on a vu tout à l'heure quelles flèches enflammées le diable pouvait tirer. Des flèches de tentation, des flèches de doute, des flèches de mensonge. Mais la foi est comme un bouclier, et Romains 10, 17, qu'on peut brandir comme un bouclier. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend nous vient de la parole de Dieu. Tout simplement, la parole de Dieu est notre bouclier. Vous avez vu l'évangile, le Christ est notre armure. Et là, il y a eu une mitraillette de versets. La parole de Dieu est notre bouclier. Et une dernière caractéristique de cette armure, et pas des moindres, c'est que alors que Batman ne dort pas avec sa panoplie, eh bien le chrétien, si. Oui, nous dormons avec cette armure. Comment c'est possible ? Cette armure, elle est permanente. On peut la revêtir jour et nuit. Et c'est possible parce qu'en hébreu, on peut lire que le Seigneur est le plus grand souverain sacrificateur car son sacrifice à lui est perpétuel. Tu peux mettre la diapo d'après. Le Seigneur, depuis son trône de grâce, est notre souverain sacrificateur. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur, il allait chaque jour au temple pour effectuer un sacrifice, pour laver les péchés du peuple. Il devait recommencer chaque jour. Mais notre Seigneur, depuis son trône de grâce, il est notre souverain sacrificateur. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est une bonne nouvelle. Nous revêtons Christ en permanence et non pas par intermittence. Car son sacrifice pour nous, il est perpétuel. Voilà, à travers tous ces éléments, on peut se rassurer. La parole en elle-même, elle constitue notre armure, dans son autorité, dans sa cohérence, dans sa véracité, dans son inhérence, dans son souffle, et je dirais même sa vitalité. On voit comment le Seigneur Jésus, parole devenue chair, est lui-même notre armure céleste. Et je trouve que c'est plutôt rassurant et que c'est plutôt motivant. Parce que même si on réalise que le combat il est sûrement plus difficile qu'on l'imaginait, l'armure de Dieu elle est vraiment plus puissante que nous le pensions. Une dernière chose, c'est que revêtir le Seigneur, c'est concrètement s'unir à lui. Et j'ai trouvé que Jean Calvin, il décrivait bien un des pères réformateurs. il décrivait bien ce que ça veut dire s'unir à Christ. Tant que nous ne sommes pas à Christ, tout ce qu'il a souffert pour le salut des hommes est dépourvu de sens et d'utilité pour nous. Pour que nous bénéficions des biens dont le Père l'a comblé, il faut que nous soyons à lui et qu'il habite en nous. Rien de ce qu'il possède n'est nôtre tant que nous ne sommes pas un avec lui. La puissance et l'action secrète du Saint-Esprit nous permettent de jouir de la présence du Christ et de tous ses biens. Amen. Revêtir le Seigneur Jésus, c'est le meilleur moyen de tenir ferme pour témoigner dans nos mauvais jours. Et des mauvais jours, on sait qu'il y en a, il y en a eu et il y en aura d'autres. L'apôtre Paul, après avoir appuyé sur chaque élément de cette armure, il va nous donner cette exhortation. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alors la prière, je ne l'ai pas mise dans la panoplie parce que c'est beaucoup plus qu'une arme supplémentaire. C'est beaucoup plus qu'un composant supplémentaire de notre panoplie. Parce que la prière, c'est une puissance qui relie le ciel et la terre. De sorte qu'il y a un rapport direct entre les prières qui montent en faveur des frères et des sœurs et le déroulement du combat spirituel dans leur vie. Et ça, je le crois fermement. La prière est notre puissance. C'est pour cela que Paul demande, tout simplement, mais avec insistance, qu'on intercède pour lui. Pour qu'il puisse continuer de tenir ferme et qu'en plus, la bonne nouvelle de l'Évangile gagne du terrain. Paul, en fait, il lui demande qu'il soit encore permis d'annoncer le mystère de l'Évangile. Et ce mystère, je vais juste le rappeler, comme on l'avait entendu avec Paul, notre pasteur, c'est que l'Église, c'est la plénitude de Dieu. Elle est son corps, avec lequel Dieu remplit tout en tous. Éphésiens 1, 23, c'est son dessein mystérieux, son dessein dans lequel il prend plaisir. Que les autorités célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Sagesse par laquelle il veut remplir tout, en tous, avec nous. Une dernière chose indispensable, Paul ne combat pas tout seul. Vous savez, il commence sa lettre, et c'était un message de Loïc, prédication de Loïc, en septembre. Il commence par intercéder pour les autres chrétiens. Paul prie pour les autres chrétiens, pour les frères et sœurs d'Éphèse. Et à la fin, c'est lui qui demande qu'on prie avec insistance pour lui. Le même Paul, il dit en Romains 15, 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Si vous voulez, c'est un peu comme les Romains dans les romans Astérix. Eux, ils avancent en formation serrée. Tu peux mettre la diapo. Et d'ailleurs, ça s'appelle la formation de la tortue. Ils avancent lentement, mais ils avancent. Ce n'est pas grave si nous avançons lentement. L'important, c'est d'être ensemble, serré, et de témoigner de l'Évangile, et que l'Évangile gagne du terrain. Nous ne combattons pas seuls. Nous avons besoin que les frères et les sœurs prient pour nous, et nous devons prier pour elles et eux. Je finirai avec ce verset que Paul a brièvement cité ce matin. Romains 8, 38, 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, chers frères et sœurs, n'ayons plus peur, ça a été rappelé ce matin. Ne nous taisons plus, ça a été rappelé ce matin. Ne nous arrêtons plus. Car unis à lui, revêtus de son manteau de gloire, remplis de sa grâce, fortifiés par la puissance de son évangile, et peu importe si on a chuté souvent, peu importe si on s'est pris les pieds dans le tapis, parce que Christ nous qualifie et nous ne sommes plus seuls. On s'est interrogé sur notre préparation au combat. Ben oui, nous sommes prêts à proclamer avec assurance l'évangile de grâce. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Tu as décidé, dans ta grâce, de faire de nous des ambassadeurs de la bonne nouvelle. Tu as choisi des vases de terre pour porter le trésor de ton évangile. Tu nous qualifies pour combattre. Tu nous revêts de ton manteau de gloire. Tu nous permets de nous fortifier dans ta puissance. Cette même puissance qui t'a relevé de la mort pour t'asseoir au-dessus de tout. Seigneur, tu es si merveilleux et plein de grâce. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Rien ne peut me séparer de ton amour. Et que cet amour me pousse continuellement dans la prière et l'intercession pour les frères et sœurs. Qu'il me donne du zèle, Seigneur. Que cet amour me couvre d'assurance. Seigneur, qui protège mes organes vitaux. Qui protège ma tête, Seigneur. Seigneur, c'est ta puissance. Et tu veux nous en faire bénéficier à chacun ce matin. Afin que nous puissions tenir ferme. Lorsque nous allons proclamer cette bonne nouvelle que tu veux te réconcilier avec chaque homme, chaque femme de la création, Seigneur. Quand nous voulons témoigner du mystère de l'Église. Seigneur, sois glorifié au milieu de nous. Amen.